Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Pierre Manant, bonjour. Nous avons vu dans une première émission ce qu'il en était à la fois de votre du projet de votre œuvre, du point auquel vous êtes arrivé, et deuxièmement, disons, ce que vous devez à Raymond Aron, et aussi tout ce que vous devez à Tocqueville, et les limites actuelles que vous mettez à l'analyse de Tocqueville. Ou pour le dire autrement, vous partagez l'analyse de Tocqueville, mais vous êtes sceptique, ou vous revenez sur un certain nombre d'éléments de sa philosophie. Justement, nous parlions dans la première partie à la fois de Raymond Aron, qui vous a appris la gravité de la chose politique et le sérieux de la chose politique. Et vous dites dans ce livre-là qu'effectivement, vous avez tout de suite, après mai 68, considéré qu'il ne fallait pas se libérer de la chose politique, quand bien même elle avait été corrompue par le totalitarisme et ou le communisme, mais trouver de nouvelles formes politiques. Et puis nous avons vu effectivement ce qu'il en était de Tocqueville, donc à la fois du partage de l'analyse qui est le vôtre, et puis une distance que vous prenez à l'égard de sa philosophie. Alors je voudrais en venir à ce que vous appelez, et ce qui est tout à fait stimulant pour la pensée et inquiétant pour l'avenir, que vous appelez donc le moment cicéronien. Donc Cicéron donc, s'interroge, lui, sur pourquoi est-ce que nous sommes, pourquoi est-ce que Rome est en train de sortir de la cité au profit de l'Empire. Donc il y a une forme d'indétermination de l'ordre politique. Et donc vous dites, c'est là où je voudrais avoir le plein déploiement de votre pensée, vous dites l'Europe aujourd'hui est dans ce moment cicéronien. Donc elle cherche sa forme politique au moment même où tout le monde discrédite l'idée de nation, d'état-nation, pour autre chose. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous dire en quoi est-ce que nous sommes dans un moment cicéronien, donc une recherche d'une forme politique, et en quoi est-ce que ce moment cicéronien est inquiétant pour nous ?
Moment cicéronien, vous avez fait allusion à ce que cette expression désigne. Bon, Rome s'est étendue, la République romaine, et à partir d'un certain moment, l'ordre républicain ne peut plus faire face à cette extension du territoire romain, et le corps politique romain cherche une autre forme politique et un autre régime, et comme on sait, ce régime sera l'Empire. Et Cicéron, c'est un bon républicain, et en même temps, ce n'est pas Caton, en même temps, il comprend bien que la République romaine ancienne ne peut plus perdurer, et il est à la recherche, lui aussi, d'une nouvelle formule très difficile à cerner. D'ailleurs, ces textes que je commente assez longuement sont à la fois fascinants et en même temps très frustrants parce qu'une bonne partie du texte manque. Mais d'une certaine façon, la philologie rejoint la réalité des faits. Le troisième terme cicéronien manque. Le troisième terme, il n'a pas réussi à le faire advenir. Dans le débat entre Caton et César, il n'a pas réussi à produire ce moyen terme qui aurait permis de préserver, disons, le civisme républicain dans une autre forme politique. Eh bien, nous aussi, nous nous trouvons d'une certaine façon pris entre Caton et César, ou entre la vieille nation et le nouvel empire, entre la vieille nation et le nouvel empire, l'empire européen, ce grand ensemble en voie d'extension indéfinie, comme était l'empire romain, et nous ne savons pas comment articuler les deux. Et quand on ne sait pas comment articuler les deux, évidemment, on manque de la chose la plus nécessaire, n'est-ce pas ? Alors, ce n'est pas simplement que nous avons un problème de régime politique, ce qui est déjà suffisamment sérieux, mais c'est que nous avons un problème de forme politique, pour employer l'expression que j'emploie, pour employer l'expression qui fait le fil conducteur de mon propos, c'est-à-dire que quel est notre cadre d'appartenance dans lequel nous allons nous gouverner nous-mêmes ? Et je crois en effet que les Européens aujourd'hui se trouvent dans cette situation extrêmement inconfortable, ou dont ils ne mesurent pas l'inconfort, parce que la société moderne produit beaucoup de confort au singulier et au pluriel, mais nous sommes dans un vide politique majeur qui tient à notre embarras de richesse, si j'ose dire, parce que nous avons les vieilles nations et nous sommes supposés aussi faire partie de quelque chose de nouveau qui s'appelle l'Union européenne, mais nous ne savons absolument pas comment articuler l'un à l'autre. Et il est clair que si les choses continuent sans qu'une nouvelle forme politique cristallise, eh bien, il va y avoir une décomposition progressive de la vie européenne. Parce que, si vous voulez, pour que la vie humaine soit tant soit peu ordonnée, et là je ne parle pas de l'ordre dans la rue ou du bon ordre des comptes publics, même si ce sont des choses importantes, mais pour que le monde humain fasse sens, si vous voulez, il faut que les hommes vivent dans une communauté, dans une association humaine où, si j'ose dire, ils peuvent agir d'une manière à peu près sensée, à peu près prévisible, savoir ce qu'ils font et bien juger de ce qu'ils font.
Ouais, alors je vais jouer un peu l'avocat du diable, mais est-ce que ce que vous dites est peut-être de peu d'intérêt au regard de la situation qui est la nôtre? C'est-à-dire que nous sommes arrivés peut-être à la fin de l'histoire, peut-être que nous sommes dans ce que vous appelez, en le critiquant, mais la religion de l'humanité, que tous les hommes sont semblables, que tout le monde s'aime, que les guerres sont sans doute derrière nous. Donc pourquoi faut-il que la forme politique soit indispensable, alors que vous dites, comme beaucoup, qu'effectivement, cette religion de l'humanité semble avoir pris le pas sur toutes les autres formes politiques?
Oui, mais cette religion de l'humanité, c'est celle des Européens. Aucun autre pays, aucun autre grand ensemble ne la partage. Notre religion de l'humanité, ce n'est pas celle des Chinois, ce n'est pas celle des Russes, ce n'est pas celle du monde musulman, ce n'est même pas celle des États-Unis, en dépit de notre proximité. Les États-Unis ne songent pas à se fondre dans l'humanité. Ils ont le sentiment très vif de la différence entre les États-Unis d'Amérique et le reste de l'humanité, y compris le reste de l'humanité démocratique, y compris l'Europe. Donc, la religion de l'humanité, le sentiment de soi des Européens, c'est, si j'ose dire, notre idiosyncrasie. C'est peut-être l'idiosyncrasie de 500 millions de personnes, mais c'est quand même une idiosyncrasie qui n'est pas partagée par le reste de l'humanité et qui nous paralyse dans nos relations avec le reste de l'humanité. Donc, je ne crois pas du tout que notre satisfaction de nous-mêmes, notre contentement de nous-mêmes, durera encore 10 ans. Il est évident que les pressions économiques, financières, politiques, migratoires, religieuses qui pèsent sur nous sont telles que nous devrons ou prendre une certaine forme, ou tracer une certaine frontière, ou bien alors, en effet, nous disloquer et devenir une sorte de zone grise avec des bribes encore peut-être de confort moderne, si j'ose dire, mais politiquement, moralement, spirituellement disloqué.
Donc vous dites qu'il y a une exception européenne.
Bien sûr.
Et que l'exception européenne qui se prend pour
l'avenir du monde,
l'avenir du monde réalisé ici et qu'il importe d'importer ailleurs, vous dites...
Nous ne sommes pas le commencement de l'avenir du monde, nous sommes la fin de l'Europe. Je veux dire, c'est plutôt ça.
Et vous dites qu'il y a un effet d'aveuglement. Vous dites que la religion de l'humanité, c'est un voile sur nos yeux et un édredon sur notre cœur. Donc, qui nous empêche, d'une certaine façon, de penser qui nous sommes dans le rapport de force ou dans la différence des formes politiques à l'extérieur de nous-mêmes.
Nous, en effet, je crois que ça a été un des effets pervers de la construction européenne ou de la manière dont elle s'est construite, c'est qu'elle a donné à chaque pays le sentiment que son voisin était le même, que son voisin, c'était l'autre pays européen. Nous avons multiplié les relations entre pays européens, ce qui est très bien. Mais au fond, en nous tournant les uns vers les autres, nous avons tourné le dos au reste du monde. Et nous avons eu le sentiment que nous nous suffisions à nous-mêmes et que ce que nous faisions était tellement merveilleux que nos voisins n'allaient avoir qu'un seul désir, c'est de nous imiter. Ce n'est pas ce qu'on voit se dessiner. Et donc, tout simplement, notre dispositif d'une gouvernance démocratique qui, en quelque sorte, laisserait derrière elle les pompes et les œuvres du gouvernement démocratique ou du gouvernement politique, eh bien, cette espérance va être et déjà largement déçue, à tel point que, comme vous savez, nous nous demandons même si la monnaie unique pourra résister, disons, aux déchirures qui se dessinent dans le tissu européen. Donc, il y a là, si vous voulez, une grande question. C'est une question, j'insiste sur ce point, spirituel et politique. Quand je dis spirituel, ce n'est pas pour utiliser un mot qui retentit, mais c'est parce que c'est quelque chose qui va tout à fait au-delà des institutions politiques, des régimes politiques. C'est une prise de position par rapport à l'ensemble de la vie humaine, par rapport à la situation de l'homme dans le monde et la situation des Européens dans le monde. Comment nous rapportons-nous aux grands enjeux qui font la vie du monde et des grands enjeux qui rejoignent l'histoire de l'Europe? Je veux dire, comment nous rapportons-nous, par exemple, à la confrontation au Moyen-Orient? La question d'Israël, c'est une question... La question d'Israël et des Palestiniens, c'est une question intime à l'Europe, pour des raisons que tout le monde peut voir. Et il est clair que sur cette question, l'Europe est d'une passivité entière. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc, nous vivons comme si nous étions sans monde. Nous parlions d'Anna Arendt avant de commencer l'enregistrement. Eh bien, vous savez, elle dénonce l'acosmisme moderne. Eh bien, oui, nous vivons comme s'il n'y avait pas de monde autour de nous.
Mais ce qui est singulier dans votre propos et presque unique, c'est que, certes, nous traversons une crise, mais on a quand même le sentiment que nous sommes le point le plus avancé de l'humanité. Et vous vous dites, je vous cite, hein, « L'ampleur de la recomposition est considérable. Nous devons accomplir quelque chose de radical qui a été très rarement accompli dans l'histoire et qui est de fonder une nouvelle forme politique. » Personne, à part vous, n'a le sentiment.
Bah, tout le monde le dit. Tout le monde le dit lorsqu'ils disent ou l'on dit « il faut faire l'Europe ».
Oui.
Qu'est-ce que c'est l'Europe ? C'est bien cette nouvelle forme politique. Simplement, on a essayé de la faire « on the cheap », comme disent les Anglais, c'est-à-dire on a pensé qu'avec quelques institutions communes, un marché unique, une monnaie unique, eh bien tout ça allait progressivement produire une forme politique. Et comme je le répète souvent, avec cette postulation que un soir, nous allions nous endormir français, allemand, italien, et le lendemain, nous réveiller européens. Voilà, donc nous avons qu'il faille faire une nouvelle forme politique, si j'ose dire. Non seulement je ne suis pas seul à le dire, mais tout le monde le dit. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que c'est une opération extrêmement profonde, radicale, douloureuse. Fonder la nation, l'élaboration de la forme nationale. On dit la forme nationale s'est terminée. Soit, peut-être, nous faisons quelque chose. Bon, mais voyez les efforts extraordinaires qu'a réclamé la production de la forme nationale. Et l'on voudrait que l'on produise l'Europe, si j'ose dire, en jouissant simplement des bénéfices de la productivité accrue et des bénéfices de la gouvernance éclairée. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. L'Europe ne peut exister que si elle prend des décisions, si elle fait des choix. Donc l'Europe n'existera que comme réalité spirituelle et politique qui prend des décisions, qui fait des choix dans le monde tel qu'il est. Ce qui suppose risque, ce qui suppose ennemi, ce qui suppose pouvoir, ce qui suppose force.
Et donc vous ne donnez pas tellement de pistes quant à la forme nouvelle et inédite qu'il importerait de trouver. Et vous dites qu'effectivement le risque, c'est sans doute d'en revenir à des formes anciennes. Vous dites qu'il y a deux alternatives, soit quelque chose d'inédit, et je reprends votre terme, enfin, quelque chose d'inédit, de radical, enfin, voilà, soit effectivement, sans doute, le retour à des formes anciennes. Alors, quelle serait, selon vous, cette nouvelle forme politique, donc, non pas une cité, non pas un État-nation, non pas une nation, non pas un empire, enfin, donc ce serait quelque chose qui serait postérieur à tout cela, enfin, ou...
Bon, bien sûr, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Ce que je peux dire simplement, c'est que je crois que la manière dont on a construit l'Europe jusqu'à présent, il est clair qu'elle a trouvé ses limites. On peut discuter sur le bilan, mais il est clair qu'elle a trouvé ses limites. Il est clair que les nations ne vont pas disparaître. L'Allemagne, par un certain nombre de décisions, d'avis du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, a bien marqué qu'elle ne consentirait pas d'autres abandons de souveraineté. Donc, les choses sont claires, nous resterons dans les vieilles nations. On le voit aujourd'hui dans la fabrication d'un ministère des Affaires étrangères, je ne sais pas comment il s'appelle, européen, d'un président européen, n'est qu'une mauvaise plaisanterie. Donc, nous resterons dans les vieilles nations. J'espère simplement que nous ne perdrons pas tout le bénéfice de ces années de construction européenne et que donc, nous préserverons, peut-être même nous renforcerons, non pas des institutions communes européennes qui ne me paraissent pas la voie de l'avenir, mais des actions communes européennes ou une perspective commune européenne sur le monde extérieur, parce que contrairement à ce que l'on a fait jusqu'à présent, on a voulu construire l'Europe de l'intérieur, en disant faisons des institutions communes européennes, directives communes, etc. Et puis une fois que nous existerons comme Europe, alors là nous agirons, nous ferons des choses formidables, parce que nous existerons. Non, je veux dire, en politique, on ne commence à exister que quand on commence à agir. L'Europe ne peut exister politiquement que si elle commence à agir politiquement. Et commencer à agir politiquement, c'est pas agir sur l'intérieur, c'est d'abord agir sur l'extérieur. Donc, la chose fondamentale pour l'Europe, c'est une politique extérieure commune. Comme aujourd'hui, les seuls agents politiques en Europe, ce sont les États, donc c'est une politique extérieure commune des États. Pas de tous les États, nous sommes 27, on n'y arrivera jamais. Donc il y a quelques États, je dirais, qui ont des ambitions politiques et des capacités politiques, et si j'ose dire un habitus de la politique internationale, il n'y en a pas beaucoup, il y en a trois, il y a l'Allemagne, il y a la France et le Royaume-Uni. Voilà, donc si vous voulez, et là, je rejoins des propos de praticiens de la politique de différents bords politiques. Je pense par exemple à Hubert Védrine, Et ça me paraît la voie pratique, n'est-ce pas, qui disent que la perspective pour l'Europe, c'est d'abord une perspective commune et une action commune d'un triumvirat ou d'un directoire européen, bien sûr un directoire, si j'ose dire, officieux, pour dessiner une perspective commune sur les grands enjeux. Vous me direz, c'est très modeste, c'est rien à voir avec l'immense jeu de Lego auquel nous nous jouons depuis des décennies. C'est modeste, mais j'ai peur que ce soit trop ambitieux. Parce que, est-ce que, aujourd'hui, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont capables de parvenir à des vues communes sur des questions aussi centrales que le Moyen-Orient, la question de la Turquie et quelques autres, la relation avec les États-Unis, la construction d'une force militaire commune, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, ma perspective n'est pas une perspective, si j'ose dire, de philosophie de l'histoire. Je veux dire que je ne prétends à aucune connaissance de l'avenir. Je mesure l'extrême désarroi européen et qui se traduit par le fait qu'il n'y a presque plus d'enjeux politiques réels dans les différents pays. On voit bien que les oppositions politiques ne parviennent plus à se formuler. Il n'y a pas de programme différent, au fond. Ça prouve bien qu'il n'y a pas vraiment de perspective politique vivante. Tout le monde est dans une totale perplexité. Donc, ce que je dis simplement, c'est que faisons avec ce que nous avons. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui invente des choses inédites, je n'ai aucune imagination. Mais faisons avec ce que nous avons. Ce que nous avons, ce sont des vieilles nations qui ne disparaîtront pas, qui ne veulent pas disparaître. Nous avons une entreprise européenne dont il faut garder le meilleur. Et donc, comment arranger tout cela? Alors, c'est là qu'on peut discuter. Moi, je crois qu'il ne faut pas du tout aller vers des institutions communes qui vont nous lier alors même que nous sentons bien que nous voulons rester nous-mêmes, en quelque sorte. Mais trouver le moyen, en effet, de ce que j'appelle des actions communes. Je suis ouvert à toutes les objections, mais c'est le maximum de ce que nous pouvons faire, avec l'espoir que, si vous voulez, si vraiment nous avons su prendre quelques bonnes grandes décisions ensemble, eh bien cela donnera peut-être ultérieurement un contenu, une substance à la chose commune européenne. Et alors peut-être on pourra envisager des institutions communes.
Je voudrais qu'on termine ce second entretien sur, disons, l'un des pôles, l'un des trois pôles qu'on a vu au début, à savoir le pôle religieux. Alors, ce qui est étonnant, enfin, dans votre livre, Le regard politique, c'est que vous semblez considérer, et il me semble à l'encontre de ce que disait Tocqueville, que l'égalité moderne, démocratique, ne provient pas du sens de l'égalité chrétienne. Il y a des lettres très claires, semble-t-il, de Tocqueville.
Oui, vous avez raison. Oui.
Là-dessus. Bon, et cette idée-là, tocquevillienne, s'est un peu répandue, disons. Voilà, je pense à Luc Ferry en particulier, par exemple. Enfin bon. Et donc vous vous dites, non, il n'y a pas de continuité entre les deux, et vous reconnaissez deux apports du christianisme à la modernité, le libre-arbitre d'une part, et puis la conscience d'autre part, mais l'idée de l'égalité, chrétienne d'une part, et démocratique de l'autre, sont, pour vous, d'une nature ou d'une réalité différente. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu
tout ça? Tout à fait, oui. Le christianisme introduit tout de même une révolution sur un point très important, qui est aujourd'hui oublié, parce qu'on a complètement oublié la conception des Grecs, c'est que la vérité pour le christianisme est la même pour le plus grand savant, l'esprit le plus éminent, et l'ignorant sans éducation.
Il n'y a pas de savoir réservé.
Il n'y a pas de savoir réservé, et le, comme je le dis, la bergère peut en savoir plus sur la vérité ultime que le théologien le plus aguerri. Donc ça, c'est effectivement une considérable révolution par rapport à la philosophie grecque qui réservait la vérité ou ce qui s'en approche à un tout petit nombre des sages. Mais, alors en ce sens, si vous voulez, c'est une révolution pour l'égalité, mais sur un point, certes fondamental, mais circonscrit. Alors, pour le reste, en effet, je crois que rien dans le christianisme, en quelque sorte, ne rend nécessaire, si je peux dire, la société démocratique moderne où les hommes, en quelque sorte, désirent, font en sorte d'avoir un accès de plus en plus égal à tous les biens de ce monde. Le christianisme ne porte pas sur ce monde. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie toujours. On fait comme si le christianisme avait pour but d'aménager ce monde-ci. Le christianisme ne porte pas sur ce monde. Le christianisme saisit chaque âme, chaque être humain, pour le tourner vers Dieu, et pour, en somme, l'enlever à ce monde. Et alors, en effet, dans cette démarche, il ne fait pas acception des personnes. Dieu ne fait pas acception des personnes, mais son propos n'a rien à voir avec l'instauration de conditions sociales égales en ce monde-ci. Et un signe année, n'est-ce pas, que la prédication chrétienne s'adresse à chaque condition humaine sans prétendre la changer. Le christianisme n'a pas demandé que l'on mît fin à l'esclavage. les époques chrétiennes, enfin ce qu'on appelle les siècles chrétiens, je n'aime pas beaucoup cette expression, mais ont été une présence très impérieuse du christianisme, de la religion chrétienne dans l'espace public, a été compatible avec d'énormes inégalités, n'est-ce pas ? Les rois très chrétiens gouvernaient des sociétés, des nations prodigieusement inégalitaires. L'Église, et d'ailleurs les confessions protestantes aussi, l'Église catholique et les confessions protestantes, se sont accommodées d'énormes inégalités. Ça a d'ailleurs été une des grandes objections, disons, adressées au christianisme historique, n'est-ce pas ? Aux institutions religieuses, que leur complaisance pour les inégalités. Alors, peut-être y a-t-il de complaisance, et dans ce cas, ce sont des fautes qu'il faut considérer. Mais, fondamentalement, l'Église et la prédication chrétienne est là, non pas pour mettre de l'ordre dans cette cité-ci, dans ce monde-ci, mais pour, si j'ose dire, recruter des citoyens pour la cité de Dieu. Donc, la perspective est tout à fait différente. L'homme démocratique s'installe dans ce monde, veut jouir des biens de ce monde, veut être heureux dans ce monde, veut que, encore une fois, que tous les biens soient partageables par tous. La prédication chrétienne a pour premier souci que l'homme ne se satisfasse pas de ce monde, ne s'installe pas dans ce monde et au contraire ne cesse de lui dire que même dans le plus grand confort, il est misérable. Il est misérable sans Dieu. Donc ce mot d'égalité ou la valeur d'égalité met entre parenthèses l'ensemble du dispositif chrétien. Si on isole les éléments égalitaires du christianisme, mais pour le rapprocher de l'égalité moderne, mais on sépare ces éléments de l'ensemble de la perspective chrétienne, et encore une fois, qui est une perspective transcendante, une perspective qui quitte ce monde, et c'est même une des raisons pour lesquelles, encore une fois, historiquement, le christianisme a été souvent critiqué, en particulier par les politiques.
Je vais essayer d'être, c'est un exercice difficile, mais je vais essayer d'être plus tocquevillien que vous-même. Il me semble qu'effectivement, Tocqueville met bien en évidence qu'il y a une inégalité de nature dans la cité grecque, en particulier, entre effectivement les esclaves, les femmes, et puis les citoyens. Et que cette inégalité est consubstantielle à la politique. Alors que, ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, il y a une dignité égale, donc une égalité devant Dieu, dans le christianisme, qui est consubstantielle au christianisme. Alors qu'est-ce que vous répondez, d'une certaine façon, non pas à moi-même, mais à Tocqueville, qui semble effectivement être dans cette lignée-là d'une continuité d'égalité par cette égalité, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas de différence entre le roi et la bergère, entre l'ignorant et celui qui sait. Il y a eu cette tentation gnostique au début du christianisme qui a été rapidement évacuée.
Ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Il ne faut pas séparer le début de la fin, parce que ce n'est que, pour saint Paul, dans le Christ Jésus, qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Parce qu'autrement, il y a toujours homme et femme, juif et grec, et homme libre et esclave, en tout cas, sinon esclave, les différences de conditions dans la société. Donc, je crois que nous avons tort d'isoler, encore une fois, des propositions que nous interprétons, nous, selon notre préoccupation de l'égalité et de la ressemblance, alors que, si vous voulez, saint Paul a pour but non pas de diriger l'esprit de ses auditeurs dans la direction d'une ressemblance entre les êtres humains ou d'une égalité entre les êtres humains, il veut les diriger vers Dieu, vers l'unité qu'ils trouveront en Dieu. Ils ne la trouveront pas ici. Donc, je maintiens en quelque sorte qu'il y a une grande distance entre la perspective chrétienne sur les choses humaines et la perspective démocratique. Maintenant, que l'on dise que d'une certaine façon, l'égalité démocratique, sous la forme qu'elle a prise dans nos sociétés, n'aurait jamais pu se dégager dans un autre contexte religieux que le contexte chrétien, peut-être, c'est possible. Il y a des épisodes historiques où, à coup sûr, le contexte chrétien, la parole chrétienne joue un rôle décisif en direction de l'égalité. Alors, je pense en particulier à un cas, c'est le cas des États-Unis et de la lutte pour les droits civiques. Il est certain que Martin Luther King représente en effet une action politique et spirituelle, une contestation de l'inégalité des conditions où l'accent religieux est décisif. Et les Américains, je le dirais ainsi, ont surmonté l'esclavage et la discrimination, quels que soient tous les problèmes qui existent encore, ont surmonté l'esclavage et la discrimination, je dirais, en chrétiens. Alors, parce qu'ils étaient chrétiens, ou en chrétien, ou dans une perspective chrétienne, ou avec un accompagnement de la perspective chrétienne, on peut nuancer. Mais je crois, en effet, là, il y a des moments où la parole chrétienne a un retentissement immédiatement politique et social, ça, je ne le conteste pas. Il reste que, dans sa direction première, encore une fois, le christianisme construit une autre cité.
Dernière question, suite à ces deux livres-là, et comme contrairement à d'autres, vous travaillez beaucoup pour chacun de vos livres, et donc vos livres sont relativement rares, qu'est-ce que vous nous préparez en ce moment, ou quels sont les sujets sur lesquels vous êtes en train de réfléchir et qui peut-être donneront lieu à quelques prochains livres ?
Ben, d'une part, je réfléchis toujours à cette histoire théologico-politique de l'Occident, n'est-ce pas ? Avec ces enchaînements de formes politiques, de régimes politiques, et le jeu avec la question religieuse. Et à coup sûr, je vais continuer à explorer cela. Il y a un auteur que j'ai beaucoup étudié, sur lequel je travaille en ce moment, et j'espère finir par produire quelque chose. Et c'est Montaigne, parce que Montaigne représente une figure très singulière. Comment dire ? Il est l'ami de tous, il nous est tellement familier, quand nous avons le sentiment qu'avec lui, en quelque sorte, nous naissons, enfin, l'individu moderne naît, et en même temps, quand on le lit, on voit quel extraordinaire effort la production de ce moi qui parle de lui-même représente face à ces deux grandes autorités que sont d'un côté le civisme païen des Grecs et des Romains, et de l'autre côté la perspective chrétienne. Et donc, au fond, en étudiant Montaigne, je revisite cette question qui ne cesse de me préoccuper, comment l'histoire de l'Occident, comment notre quête de nous-mêmes, en quelque sorte, ne cesse de s'élaborer par rapport au civisme païen, si vous voulez, d'une part, à la perspective chrétienne de l'autre, à la recherche d'une troisième possibilité que, en même temps, nous ne parvenons jamais à remplir complètement. Alors, dans ce cas, on pourra dire, qu'est-ce que cet humanisme, en quelque sorte, sur lequel l'Occident, au fond, s'est reposé ou a entendu se reposer depuis le XVIe siècle? Et est-ce qu'il est au terme de ses possibilités, ou est-ce qu'il a encore de quoi nous encourager, nous instruire? Je ne sais pas.
Eh bien, Permanent, merci beaucoup donc d'être venu jusqu'à nous. Je renvoie donc nos auditeurs à vos deux derniers livres. Donc, Le regard politique, entretien avec Bénédicte Delorme-Montigny, donc chez Flammarion. Et puis toujours chez Flammarion. Donc, Le regard politique étant une formidable introduction à votre œuvre et au point donc que vous faites sur l'état actuel de vos travaux, donc par les entretiens. Et puis, deuxième livre, donc Les métamorphoses de la cité, essai sur la dynamique de l'Occident chez Flammarion, toujours. Et donc voilà, merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Et puis sans doute, nous aurons l'occasion de vous réinviter si vous acceptez de revenir pour parler de Montaigne.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.